À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
Jean Charmois, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors nous finissons le panorama des pères syriens par leur figure la plus remarquable dont l'enseignement a largement dépassé les limites du monde syriaque. Et je vous disais hors antenne que j'avais l'impression de le connaître celui-là. Isaac le Syrien.
Oui, Isaac le Syrien ou Isanak de Ninive a été très vite traduit dans différentes langues. Et ses sentences en grec sont aujourd'hui encore un livre de référence dans tous les monastères orthodoxes. Et c'est un ouvrage fortement conseillé pour la vie spirituelle de tout chrétien. Et surtout qu'au-delà des séparations confessionnelles, c'est un saint pour toutes les églises, non seulement d'Orient, mais même en Occident. L'église orthodoxe, l'église syrienne orientale, l'église syrienne occidentale, l'église copte, l'église arménienne. Donc j'ai toujours l'intention de faire un certain nombre d'émissions sur les pères spirituels principaux de l'Orient chrétien, quand j'aurai achever l'ensemble des émissions sur les pères de l'Église. Je reprendrai un peu la question, le sujet d'Isaac le Syrien, mais il n'était pas possible de ne pas s'arrêter un moment sur lui dans la série des pères syriaques. Alors, de l'homme lui-même, on ne sait presque rien. Il fut au 7e siècle évêque de l'Église de l'Orient, d'Orient de Ninive. Il est né dans le Qatar, et avec son frère, il devint moine alors qu'il était très jeune. Son renom de sainteté s'est répandu dans tout l'Empire perse, au point que les habitants de Ninive le réclamèrent comme un évêque. Il fut consacré, vers 660, par le catholicos, le patriarche, de l'Église de l'Orient, mais il abdiqua 5 mois plus tard pour se retirer comme anachorète, comme ermite, dans une province du Kurdistan iranien. Alors les raisons de son départ de l'épiscopat restent incertaines. Il y a une légende syrienne qui est conservée en traduction arabe qui nous parle de son abdication. Parce que le premier jour de son ordination, il était assis dans sa résidence et deux hommes viennent dans sa chambre en se disputant. L'un d'eux exigeait la restitution d'un prêt. Si cet homme refuse de me rembourser ce qui m'appartient, je vais être obligé de le poursuivre en justice. Isaac lui dit, puisque le Saint-Évangile nous enseigne à ne pas reprendre ce qui a été donné, tu devras au moins accorder à cet homme un jour pour faire son remboursement. L'homme a répondu, allez, laisse de côté pour les enseignements de l'Évangile pour l'instant. Alors Isaac lui dit, mais si l'Évangile n'est pas présent, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et voyant que sa charge d'évêque perturbait sa vie solitaire, il abdique de son épiscopat et s'enfuit dans le désert. Alors, il mangeait très peu dans sa solitude, 3 pains par semaine et quelques légumes. Une lecture assidue des livres saints et d'abondantes larmes de componction lui usèrent la vue. Pratiquement aveugle, il s'est retiré dans un monastère au nord du Kurdistan, où il a dicté ses œuvres à ses disciples. La date de sa mort nous est inconnue, comme la date de sa naissance. Mais dès sa vie terrestre, il était vénéré comme un saint. Et après sa mort, sa gloire augmenta à mesure que ses écrits se répandaient. Joseph Azaïa, dont on a parlé dans une précédente émission et qui a vécu au 8e siècle, l'appelait célèbre parmi les saints. Au 11e siècle, en raison de la traduction grecque de ses écrits, Isaac est devenu largement connu dans l'Orient. Les textes de Abba Isaac le Syrien sont sur le même pied que tous ceux des classiques de la spiritualité orthodoxe. Ils furent reçus dans l'église syrienne occidentale d'Antioche, ils inspirèrent Siméon le nouveau théologien à Constantinople et plus tard exercèrent leur influence sur la mystique russe. Au Moyen-Âge, les écrits d'Isaac ont été traduits en plusieurs langues européennes. Aujourd'hui, il est aussi connu et apprécié en Occident. Alors il fait la synthèse de tous les grands courants spirituels du christianisme ancien, Évagre le Pontique, spéculatif, qui met l'accent sur la purification de l'intellect, Macaire, plus biblique, centré sur les thèmes du cœur et de la plénitude du Saint-Esprit, et suit d'Origène avec l'espérance du salut universel. Mais comme Isaac a évité d'écrire sur les sujets théologiques controversés de l'époque, concernant la personne ou la nature du Christ, ses textes ont pris une valeur œcuménique, transcendant les querelles théologiques, ce qui lui a permis de ne jamais être désigné comme hérétique.
Alors pour Isaac le Syrien, l'amour est au centre de la création.
Oui, ça c'est fondamental. Pour Isaac, Dieu est avant tout un amour incommensurable et sans limite, au-delà de la compréhension humaine et même de sa description en mots. Et il écrit, parmi toutes les actions de Dieu, il n'y a aucune qui ne soit pas entièrement une question de miséricorde, d'amour et de compassion. C'est le début et la fin de toutes ses relations avec nous. L'amour divin est la raison principale de la création de l'univers et c'est la force motrice derrière l'ensemble de la création. Il écrit « Cet être invisible qui est sans commencement et par nature au-delà de la connaissance, de l'intellect et du sentiment des êtres créés, il est au-delà du temps et de l'espace. Il est le créateur de ceux-ci. Il a créé le commencement des temps. Il a fait exister les mondes et les êtres créés. Combien dans sa compassion il porte tout, agissant providentiellement en guidant sa création, et comment avec un amour qui ne peut être mesuré, il a établi le monde. Combien Dieu est compatissant, combien patient. Il aime la création, il la porte, endurant doucement son importunité, les divers péchés et méchancetés, les terribles blasphèmes des démons et des hommes méchants. Pour Isaac, l'amour de Dieu pour le monde est tout entier dans tout et dans tous. Pour les anges et pour les démons, les êtres humains et les animaux. La providence de Dieu est universelle et l'embrasse tout. Aucune de ses créatures n'est exclue. Il écrit « Il n'y a dans la connaissance de Dieu aucun être qui soit premier ou dernier. De même qu'il n'y a ni avant ni après dans son amour pour chaque être, aucun qui aurait reçu moins, aucun qui aurait reçu plus. Au contraire, l'égalité est permanente en lui. » Égalité de sa connaissance, de même que l'égalité continue de son amour.
Alors pour Isaac, Dieu est un feu d'amour et il est pour les bons comme pour les méchants. Il y a toutefois une grande différence dans la façon dont les êtres reçoivent ce feu aimant. Le même feu d'amour apporte la clarté à ceux qui répondent à l'amour par l'amour et brûle ceux qui répondent par la haine.
Alors ça, il écrit quelque chose d'assez extraordinaire. Le paradis et l'enfer sont le même fleuve unique de Dieu, un feu d'amour qui embrasse et enveloppe tout de la même volonté bienveillante, sans différence ni discrimination. La même eau vivifiante est vie éternelle pour les fidèles et mort éternelle pour les infidèles. Et l'élément vital des premiers est l'instrument de suffocation éternelle des seconds. Le paradis des uns est l'enfer des autres. Ne vous étonnez pas, le fils qui aime son père est heureux dans ses bras, alors que l'accolade aimante du père sera un tourment pour son fils qui ne l'aime pas. C'est pourquoi ceux qui nous détestent ressentent comme des charbons ardents sur leur tête l'amour que nous leur portons. Ceux qui souffrent en enfer souffrent d'être fouettés par l'amour. Il est tout à fait erroné de penser que les pécheurs en enfer sont privés de l'amour de Dieu. Et pour Isaac, la miséricorde est incompatible avec la justice. Il écrit « La miséricorde s'oppose à la justice. La justice relève de l'égalité, car elle donne à chacun ce qu'il mérite. La miséricorde, au contraire, est une douleur et une pitié attisée par la bonté. Elle incline avec compassion l'homme vers tous. La miséricorde qui se limite à la justice n'est pas de la miséricorde. Le vrai miséricordieux ne se contente pas de faire la charité avec ce qui lui appartient. Joyeusement, il endure l'injustice de la part d'autrui. Il y répond par le pardon. C'est là la perfection évangélique. Tu donneras à quiconque te demandera, tu ne réclameras point ce qu'on t'aura pris. Il faut accepter avec bonheur de se voir privé de tout objet, de toute chose matérielle, et qui plus est, de sacrifier sa vie pour ses frères. » Et enfin, il a un passage qui est célèbre dans ses écrits sur la miséricorde comme rayon de la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qu'un cœur miséricordieux ? C'est un cœur qui brûle pour toute la création, pour les hommes et pour les oiseaux, et pour les animaux et pour les démons, et pour toute créature. De leur souvenir et de leur contemplation, ses yeux fondent en larmes. À cause de la grandeur et de la force de cette compassion qui lui étreint le cœur, À cause de sa grande patience, son cœur se fait tout petit, et il ne peut supporter ni d'entendre ni de voir le moindre dommage ou le moindre chagrin survenir dans la création. Pour cette raison, à toute heure, il prie avec larmes, aussi bien pour les animaux et pour les ennemis de la vérité, pour ceux qui lui font du mal, afin que Dieu les garde et les prenne tous en pitié. Il prie même pour la race des reptiles, à cause de la grande miséricorde qui bouillonne dans son cœur, d'une façon démesurée à la ressemblance de Dieu.
Isaac ne rejette pas les bonnes actions, mais indique seulement la nécessité d'être spirituellement saint avant d'aller dans le monde pour guérir les autres. Il est donc nécessaire que l'homme spirituel guérisse d'abord sa propre âme, puis prenne soin de l'âme des autres. La vie intérieure en Dieu est supérieure à toute activité philanthropique et missionnaire.
Oui, il écrit « Aimer l'oisiveté du silence plutôt que de pourvoir aux affamés du monde et à la conversion d'une multitude de païens au culte de Dieu. Il vaut mieux pour vous vous libérer des chaînes du péché que de libérer des esclaves de leur esclavage. Il est préférable pour vous de faire la paix avec votre âme et par votre enseignement d'apporter la paix entre les hommes en désaccord. » Et ces phrases importantes et merveilleuses, « Celui qui voit ses péchés, même s'il demeure parmi la foule, est plus grand que celui qui ressuscite les morts. Celui qui gémit une heure sur son âme est plus grand que celui dont la vue profite au monde entier. Celui à qui il a été donné de se voir lui-même est plus grand que celui à qui il a été donné de voir les anges. Celui qui suit le Christ dans le deuil intérieur est plus grand que celui qui le loue dans les assemblées. » Et ce qu'on peut dire, c'est que Isaac n'exprime pas des pensées, il ne fait pas des exhortations morales, il décrit des états intérieurs fondamentaux. Il écrit, il rapporte avec brièveté et précision les changements qui surviennent dans celui qui pratique la tempérance et le combat spirituel. Il parle tangiblement des choses surnaturelles et de leurs sensations. Il décrit la joie ineffable qui remplit le corps de l'homme à l'heure de la rencontre avec la grâce. Son œuvre est un océan de révélation pour celui qui s'y plonge. Et là, si on veut souligner une de ces phrases, alors il faut les souligner toutes. Nous parlerons davantage d'Isaac le Syrien, dans une, comme je l'ai dit, dans une série d'émissions sur les pères spirituels principaux de l'Orient chrétien, si Dieu le donne.
À l'écoute des pères, l'émission de dialogue RCF sur les pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.